Les cours du Collège de France, Maria Melchior, chère Santé publique.
Bonjour, merci d'être là. Il est 10h, je vous propose de commencer pour ne pas prendre de retard sur cette première partie du cours d'aujourd'hui qui portera sur les familles. Voilà, je l'ai appelé une affaire de famille, héritage et transmission psychologique. Un thème dont on aurait pu probablement faire une série de cours à part entière. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera vraiment un survol des thématiques qui concernent les transmissions familiales autour de la santé mentale et des troubles psychiatriques. Dans la première partie, je vous parlerai de l'épidémiologie et de ce qu'on sait du rôle de différents types de mécanismes dans la transmission ou pas des troubles psychiatriques. Et dans la deuxième partie, Cynthia Marie-Claire, qui est directeur de recherche au CNRS et biologiste, parlera plus particulièrement des questions d'épigénétique et de ce qu'on sait aujourd'hui de l'épigénétique de la transmission du trouble bipolaire et aussi des facteurs épigénétiques qui influent sur l'efficacité des traitements. Donc un pan un peu spécifique de la recherche dans ce domaine. Mais moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc le lien entre différents aspects des familles, ce qui se passe dans les familles et la santé mentale. Si vous voulez, on va essayer de répondre à une question qui peut sembler relativement simple et qui est est-ce que la santé mentale se transmet dans les familles ? Alors, si je vous le demande comme ça, vous avez sans doute une idée, bien sûr, basée sur plein d'éléments différents, scientifiques et un peu moins scientifiques. Voilà, on verra si à la fin de cette heure, la réponse qu'on peut y apporter tous ensemble est aussi claire et nette qu'à 10h01. Donc, on va parler des antécédents familiaux, des troubles psychiatriques, du rôle de la génétique en particulier, parce que beaucoup de recherches se sont centrées sur cette question, en particulier des facteurs génétiques impliqués au cours des dernières décennies. On va aussi parler de ce qui se passe et ce qui passe dans les familles en dehors de la génétique, et puis aborder rapidement comment accompagner les familles touchées par les troubles psychiques. Alors, pour commencer, j'aimerais faire un petit pas de côté, historique et littéraire, pour vous parler d'une famille que vous connaissez peut-être ou dont vous avez en tout cas entendu parler, les Rougon-Macquart, qui ont été décrits par Émile Zola à la fin du 19e siècle et qui sont peut-être un exemple, un peu un archétype de famille cumulant un certain nombre de difficultés psychiques, sociales, que Émile Zola a cherché à décrire de la manière la plus réaliste, naturaliste possible. Et d'ailleurs, vous savez peut-être qu'il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Claude Bernard, qui était médecin et professeur ici au Collège de France, pour essayer de réfléchir à l'hérédité au sein des familles. Donc très rapidement, les Rougon-Macquart, c'est 20 romans qu'il a écrits sur des dizaines d'années, mais là, je voulais juste mettre un tout petit focus sur une mère et ses trois enfants. Donc, Gervaise Macquart, dont il est dit dans l'assommoir qu'elle a été conçue dans l'ivresse, elle est elle-même alcoolique. Elle porte les traces physiques des sévices que lui a infligés son père. Elle se marie d'abord avec Lantier, puis avec Coupeau, qui sont tous les deux alcooliques eux aussi. Et elle meurt pauvre et ivre, dans le dénuement le plus complet. Ces trois enfants ont des destins tragiques. Donc, premièrement, Jacques Lantier, qui n'est peut-être pas le plus connu, qui est le héros de La Bête humaine et qui lui aussi est alcoolique et à la fin du roman finit par assassiner la femme qu'il aime. Nana, qui est donc la seule fille, qui se prostitue, meurt dans la pauvreté de la petite Vérole en ayant échoué dans les différentes choses qu'elle a essayé de faire au cours de sa vie. Et Étienne Lantier, qui est le héros de Germinal, qui est peut-être celui qui a le destin quand même le moins tragique, qui est notamment instigateur d'une grève de mineurs qui se solde par un échec, mais qui, d'après l'auteur, est d'emblée porte la folie de sa mère dans ses yeux. Donc, c'est juste pour dire que là, évidemment, dans cette série de romans, Zola cherche à démontrer à quel point la maladie mentale, l'alcoolisme et la pauvreté se transmettent presque de manière automatique entre les différentes générations. Et d'ailleurs, ici, ce que j'ai représenté à droite pour vous, c'est un espèce de tableau d'arbre généalogique qu'il a constitué pour montrer comment les différents membres de la famille des Rougon-Macquart sont liés entre eux et comment leurs traits, leurs caractéristiques se transmettent de manière héréditaire. Bon, c'était vraiment dans l'air du temps à la fin du 19e siècle. Donc, la famille, ça peut être la transmission plus ou moins directe d'un certain nombre de difficultés. Alors, avant qu'on parle de science, je voudrais enchaîner sur un autre petit pas de côté et vous dire qu'il y a plein d'autres manières de représenter ce qu'est une famille et de réfléchir à ce qui se passe au sein des familles. Alors là, je voulais vous donner des exemples cinématographiques. Mais juste pour essayer de un tout petit peu brosser le tableau de ce dont on va parler pendant l'heure. Donc, il y a des familles compliquées, mais dont finalement les membres s'aiment et se soutiennent, donc où il peut y avoir des difficultés, mais que le collectif arrive à surmonter. Alors, c'est une sélection très personnelle de films. Vraiment, je suis pas prof de cinéma, clairement, donc... si vous voulez, on peut en discuter après. Vous avez sûrement d'autres exemples. Voilà, mais moi, j'ai choisi cela. Donc, dans les familles compliquées, voilà, il y a des films comme Un air de famille, Tellement proche, ou À bord du Darjeeling limité. Il y a des familles qui sont très soudées et qui font face aux autres, y compris dans l'illégalité. Le parrain ou parasite. Il y a des familles où il se passe des choses terribles, y compris l'inceste. Donc, on pense à Festen de Thomas Wintergard. Il y a aussi des films qui montrent qu'en fait, on peut être une famille sans avoir de lien de sang. Et je pense notamment au film de Kore-eda, notamment un des derniers qui s'appelle Une affaire de famille, où un homme, une femme, une vieille dame, une jeune fille et un garçon vivent ensemble. Et on a l'impression pendant toute la première moitié du film qu'il s'agit d'une famille, jusqu'à ce qu'ils croisent une petite fille qui est maltraitée par ses parents, qui est dans le froid, ils l'adoptent, ils font en sorte de l'accueillir auprès d'eux, donc ils vivent tous ensemble, jusqu'au moment où ils sont accusés de kidnapping et où les parents vont en prison parce que les liens du sang sont considérés comme étant plus forts. Voilà. Alors, ces films n'abordent pas directement les liens entre la famille et la santé mentale, mais je pense qu'ils posent des questions sur justement ce que sont les liens de sang, leur rôle, leur place, ce que ça veut dire vivre ensemble, ce que sont des habitudes communes aussi, qui peuvent évidemment être partagées au sein des familles, que toutes ces représentations interrogent ce qu'est une famille. Alors d'ailleurs, on peut peut-être commencer par une définition. Donc je vous propose celle du dictionnaire de l'Académie française. Qu'est-ce qu'une famille ? Alors le mot vient du latin famulus, serviteur, et faisait initialement référence à l'ensemble des esclaves de la maison, donc l'ensemble des personnes qui vivaient sous le même toit. Donc on est plutôt dans le vivre ensemble que dans les liens de sang. Par extension, donc la famille, c'est une communauté de personnes vivant généralement sous le même toit, composée du père, de la mère et des enfants. Donc c'est peut-être la définition qu'on va le plus utiliser au cours de cette présentation. Mais c'est aussi l'ensemble des personnes parentes, comprenant outre les descendants, les ascendants et les collatéraux, des personnes, de la famille éloignée, des personnes qui sont un tout petit peu plus loin de nous. Et puis, on pense là aussi aux lignées, aux suites d'individus descendants des mêmes ancêtres. Donc là, on a quand même clairement la notion de transmission génétique qui apparaît. Les différentes définitions. Ce dont je vais vous parler principalement, ce sont les liens entre la santé mentale des parents, très souvent la mère, à la fois pour des raisons théoriques, mais aussi pratiques, c'est souvent les mères qui ont été étudiées, les effets des problèmes de santé mentale des parents sur les enfants et ce qu'on peut en comprendre en termes de mécanismes. Alors pour commencer, j'aimerais citer les travaux de ma collègue Judith van der Waarden, qui travaille dans la même équipe que moi et qui s'intéresse plus particulièrement au lien entre la dépression des femmes, notamment en période périnatale, et la santé mentale des enfants. Judith van den Waarden a travaillé à partir des données d'une cohorte française qui s'appelle la cohorte Eden et qui a inclus un peu plus de 1000 familles qui ont été suivies depuis le suivi de grossesse des mères jusqu'à aujourd'hui. Donc les enfants sont ont maintenant presque 18 ans et font toujours l'objet d'un suivi épidémiologique. Et à partir de ces données, elle a étudié les trajectoires de dépression des mères en période périnatale. Pour la plupart des femmes, il n'y a pas de problème de santé mentale. Je devrais dire d'abord que la période périnatale, donc la grossesse et la période du postpartum, sont des périodes à risque en termes de santé mentale. Si en temps normal, environ 10% des femmes ont des symptômes de dépression, l'année qui entoure la naissance d'un enfant, c'est plutôt autour de 20%. Une femme sur 5 a des problèmes psychologiques, et donc on sait que c'est une période à risque. Bon, néanmoins, la plupart des femmes n'ont pas de problème de dépression, 62% dans cet échantillon. Et pour les autres, il peut y avoir des variations dans le temps. 3,6% des femmes ont avaient des symptômes de dépression pendant la grossesse qui se sont ensuite estompés. 4,6% n'avaient pas de problème au cours de la grossesse, mais ont commencé à avoir montré des signes de dépression lorsque l'enfant avait environ entre 3 et 5 ans. Un groupe assez conséquent, presque un quart des femmes, avaient des symptômes de niveau intermédiaire, mais qui ne correspondaient pas à une dépression clinique. Donc, elles pouvaient connaître des fluctuations d'humeur qui sont considérées comme étant sous-cliniques. Et puis, un dernier groupe de 4,6% de femmes avaient, pour le coup, donc c'est la barre tout en haut, des symptômes de dépression importants et qui persistaient dans le temps. Donc, ces trajectoires de dépression maternelle ont été mises en relation avec le développement et la santé mentale des enfants. Et il y a différentes publications sur ce sujet, mais je voudrais juste vous montrer une d'entre elles, ici, qui montre que quand on compare les enfants dont la mère n'avait pas de symptômes de dépression à ceux dont la mère avait donc soit des symptômes pendant la grossesse, soit des symptômes plus tard au cours de dépression plus tard au cours de la vie, des symptômes de niveau intermédiaire persistant ou des symptômes de niveau élevé persistant, on observe que donc dans ce dernier groupe, les enfants ont plus de difficultés de santé mentale et de développement que dans les autres. Et c'est en particulier le cas pour les difficultés émotionnelles. Donc, je ne mentionne pas les autres résultats, mais ils vont plus ou moins dans le même sens. Mais là, ces résultats nous suggèrent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission entre les difficultés émotionnelles de la mère qui s'exprime sous forme de dépression et les difficultés émotionnelles de l'enfant, ici à l'âge de 5 ans. Donc, c'est des enfants qui sont encore très petits et dont la santé va évoluer au cours du temps. Ce type de résultat a donné lieu à beaucoup d'hypothèses sur, plus précisément, le rôle de facteurs génétiques. Une des premières choses qui se transmet dans les familles, évidemment, c'est la génétique. Alors, peut-être en préambule, ce qu'on peut dire, c'est que les questions relatives au rôle des facteurs génétiques sont faciles à conceptualiser, mais très très difficiles à étudier. Et je pense que ma collègue ira un peu dans ce sens-là aussi tout à l'heure. Je vais essayer de vous démontrer tous les paradoxes en fait et toutes les questions qui se posent autour de ces facteurs de transmission des marqueurs biologiques au sein des familles. Alors, la première difficulté, c'est que les troubles psychiques sont malgré tout assez rares et que pour identifier des familles au sein desquelles les troubles s'accumulent, il faut des échantillons très, très importants. Donc, on utilise ce qu'on appelle des études cas témoins, c'est-à-dire qu'on part de personnes qui sont malades et qu'on essaie de trouver des personnes qui ont les mêmes caractéristiques mais qui n'ont pas de troubles psychiques pour pouvoir comparer leur profil génétique et ensuite remonter à leurs ascendants et mieux comprendre donc ce qui a été transmis. Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qu'il faut enquêter, recruter, pouvoir suivre dans le temps pour pouvoir faire ce type d'études. Comme c'est difficile de recruter des personnes qui ont des troubles psychiques et de pouvoir étudier leur famille, en fait, ce qui se passe dans ces études génétiques, c'est qu'on agrège des données provenant de différents pays, de différentes périodes, pour constituer des échantillons qui sont de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Et donc, ce qui se passe quand on fait ça, quand on agrège des données de différentes études, c'est que forcément, on induit des biais de mesure, des difficultés d'évaluation des troubles, sachant que les problèmes de santé mentale sont déjà difficiles à évaluer au départ. Voilà, donc ça c'est une première difficulté. Néanmoins, ces études existent et elles nous apportent évidemment des enseignements intéressants pour mieux comprendre dans quelle proportion est-ce que avoir un parents, deux parents, parfois plus, quand on remonte à la troisième génération, atteint de troubles psychiques, induit un risque augmenté chez les descendants. Alors, donc je vais vous montrer quelques résultats très généraux provenant de ce type d'études, qui sont donc basées sur des normes consortiales de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Il y a d'abord une première manière d'essayer d'estimer dans quelle mesure est-ce que les troubles psychiques se transmettent dans les familles. La première manière de faire, c'est ici de calculer de manière assez simple la prévalence d'un trouble dans un groupe de personnes et d'estimer ensuite la prévalence de ce même trouble chez les enfants qui ont un parent, restons juste à la deuxième génération, un parent ou deux parents touchés par ce trouble. Donc si on prend ici par exemple la schizophrénie comme exemple, vous voyez que environ 1% des personnes dans la population générale souffrent d'un trouble schizophrénique. Les enfants dont un parent souffre de schizophrénie ont une probabilité de, enfin, ont un risque de 7%, ont une prévalence de 7% d'être eux-mêmes schizophrènes. Ce qui nous dit que par rapport à la population générale, le risque de schizophrénie chez les enfants qui ont des antécédents familiaux de schizophrénie est multiplié par 7. D'accord ? On peut calculer ça pour différents troubles. Ici, pour la dépression, par exemple, vous voyez qu'en population générale, le taux de dépression est d'environ... c'est en moyenne dans différents pays, c'est environ... c'est un risque vie entière. Donc, il est d'environ 13%. Il est à peu près de peut-être 15%. Il est à peu près de 22-23% chez les enfants dont un des parents a eu un trouble dépressif au cours de sa vie. Donc ici, on estime que le risque relatif chez les enfants dont les parents ont des troubles dépressifs est 1,5. Il est augmenté de 50% par rapport à la population générale. D'accord ? Donc l'idée, c'est de dire que chez les enfants dont les parents sont atteints de troubles psychiques, le risque relatif de maladie est augmenté. Voilà, on ne peut pas le nier, ce qui pourrait en partie être lié à des facteurs génétiques. Alors, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que même pour les troubles sévères et relativement rares comme la schizophrénie, la transmission familiale est moindre que pour des maladies à simple hérédité mendélienne, puisqu'en moyenne, les enfants héritent 50% de leurs gènes de chacun des deux parents. Et donc, dans les maladies à simple transmission mendélienne, le risque, 50% des enfants d'une personne malade sont atteints de la même maladie. Voilà, encore une fois, je pense que ma collègue pourra revenir plus en détail sur ces questions un peu plus précises de transmission. Donc, ce que nous disent tout de suite ces résultats, c'est que, y compris dans des maladies graves bien identifiées, il n'existe pas un seul gène transmettant la maladie, il y a forcément multiples gènes qui sont impliqués, puisque le risque chez les enfants de personnes atteintes est inférieur à 50%. Il y a un autre problème, ou en tout cas une autre difficulté peut-être dans ce domaine, c'est que si plusieurs gènes peuvent influer sur le risque d'une maladie, on sait aussi que les mêmes gènes peuvent influer sur le risque de différentes maladies. Ici, par exemple, on voit que les gènes qui sont associés au risque de dépression sont aussi associés au risque de troubles bipolaires, de troubles du comportement compulsif et de schizophrénie. Les gènes entre la dépression et les troubles anxieux sont aussi en grande partie partagés. Voilà, donc... Il y a peut-être une transmission familiale, mais les gènes directement impliqués sont multiples. Ils peuvent aussi être associés à différents types de ce qu'on appelle phénotypes, c'est-à-dire manifestations de troubles psychiques. Voilà. Et malheureusement, les choses sont déjà d'emblée un tout petit peu plus compliquées qu'on aurait pu le penser. Alors, depuis que le génome humain a été décodé en 2003, on sait que même pour des maladies graves et bien caractérisées, la contribution directe des facteurs génétiques est relativement faible. La contribution de chacun des gènes qui ont pu être identifiés, parce qu'il y en a quand même par exemple pour la schizophrénie, pour l'autisme, pour la dépression aussi, on sait qu'il existe certains types de facteurs génétiques qui peuvent augmenter le risque de maladie. Mais ils jouent un rôle relativement faible. Et donc, l'approche actuelle consiste à créer des scores de risque polygéniques qui agrègent multiples gènes à risque. Ces scores sont basés sur des études qui donc séquencent le génome entier des personnes qui participent aux études et qui présentent des troubles psychiques. Une des difficultés, c'est que différentes études ont calculé différents types de scores de risque polygéniques et en fait, ces scores de risque ne sont pas toujours répliqués d'une étude à l'autre. Donc là, c'est vraiment des recherches qui sont en cours et qui vont sans doute encore énormément évoluer avec le temps, mais qui pour l'instant n'ont pas donné de résultats suffisamment robustes pour pouvoir utiliser des scores de risque polygéniques pour prédire un risque de troubles psychiatriques et être utilisés en clinique ou dans la prévention. Parce que quand même, l'idée derrière, c'est peut-être aussi ça, c'est de pouvoir identifier des facteurs qui vont permettre de savoir à l'avance quel groupe de personnes peuvent un jour rencontrer des difficultés psychologiques. Moi, je dirais même, je ne sais pas si ma collègue sera d'accord avec moi, peut-être pas, que le séquençage du génome humain a aussi, d'une certaine manière, signifié la fin d'une époque où on pensait que la génétique allait entièrement expliquer les risques de troubles psychiques. Je ne sais pas si vous rappelez de cette période, mais on pensait que, en connaissant le génome humain de manière extensive, on allait pouvoir savoir qui présente quel gène. Ce n'est pas complètement une idée qui a disparu, puisqu'il y a des entreprises commerciales qui vous proposent de séquencer votre génome et vous dire que votre probabilité de tel type de cancer, tel type de maladie est d'un certain niveau. Néanmoins, ce que nous a appris en fait toute cette période et ces très riches recherches sur la génétique, c'est qu'en fait, en deux mots, l'environnement joue un rôle plus important que ce qu'on pensait et beaucoup plus complexe aussi, et c'est ce dont parlera Cynthia Marie-Claire tout à l'heure, en évoquant plus spécifiquement l'épigénétique. Donc moi, je vais pas en parler parce que ça va un tout petit peu au-delà de... Il y a des spécialistes pour ça, donc c'est super qu'elle soit avec nous. Mais en tout cas, le fait qu'on connaisse le génome humain nous dit aujourd'hui que, oui, la transmission génétique joue un risque, mais elle joue peut-être un risque surtout, elle joue un risque pour déterminer une certaine forme de susceptibilité à la manière dont on réagit à un environnement qui se présente à nous ou auquel on participe, évidemment, et pas directement le risque de maladie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans les recherches et dans les publications scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, la génétique prédit une certaine forme de sensibilité à l'environnement, et ensuite, le fait de développer ou non des maladies, y compris au sein d'une famille où d'autres personnes ont des troubles psychiques, dépend aussi de ce qu'on appelle l'environnement, mais en fait l'environnement évidemment ce ne sont pas les expositions physico-chimiques, ce sont les événements de vie, les relations avec les autres et un certain nombre de conditions dans lesquelles on vit. Avant de passer à cette partie-là, je voulais quand même vous parler d'une autre manière. Si on essaie de déjà faire un tout petit point, est-ce que la santé mentale se transmet dans les familles? Oui, mais c'est probablement pas uniquement au travers de marqueurs génétiques spécifiques. Il y a quand même une autre manière dont on essaie d'évaluer la transmission de choses communes aux familles. En matière de santé mentale, c'est au travers d'une notion qui s'appelle l'héritabilité et qui est peut-être là aussi plus complexe qu'on ne le pense au premier abord. L'héritabilité, c'est l'idée que ce qui se transmet dans les familles, c'est une certaine variabilité de risque. Il s'agit plus concrètement d'études sur des familles ou et en particulier sur des jumeaux où on compare le risque de maladie entre des jumeaux monozygotes, des jumeaux dizygotes et parfois d'autres apparentés, pour essayer de mieux comprendre les corrélations. Donc, c'est-à-dire les jumeaux monozygotes partagent 100% de leurs gènes et donc on s'attend à ce qu'ils aient les mêmes types de maladies, les mêmes types de comportements, si ces comportements et ces maladies sont entièrement génétiques. Tout ce qui peut être différent entre ces jumeaux est interprété comme reflétant le rôle de l'environnement. Donc ici, encore une fois, si on reprend l'exemple de la schizophrénie, vous voyez que la probabilité, donc si dans une paire de jumeaux monozygotes, si un des jumeaux est atteint de schizophrénie, la probabilité pour que le deuxième jumeau soit également atteint de schizophrénie est de 70%. Cette probabilité est de 25% chez des apparentés plus éloignés. Pour la dépression, par exemple, vous voyez que si dans une paire de jumeaux monozygotes, si un jumeau est atteint de dépression, la probabilité pour que le deuxième soit atteint de dépression également est de 25%. Donc, 28%. Donc, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité. On estime que dans le cas de la schizophrénie, elle est d'environ 43%. Dans le cas de la dépression, elle est d'environ 28%. Mais il s'agit là non pas de la simple corrélation entre le risque d'un jumeau et le risque du second jumeau, mais de manière un tout petit peu plus complexe, la fraction de la variabilité de risque qui pourrait être attribuée à des facteurs génétiques ou environnementaux. Alors, ces études sont là aussi basées sur de très très gros échantillons de jumeaux, ce qui présente un certain nombre de challenges méthodologiques comme vous l'imaginez. Par exemple, beaucoup d'études dans ce domaine ont été menées dans les pays scandinaves où des registres des populations entières sont disponibles. Et voilà, vous voyez ici par exemple un exemple d'une étude qui a été menée donc sur une dizaine, 10 000 paires de jumeaux suédois. Et qui montre que quand on regarde le risque de... Alors ici, pour le coup, la transmission, enfin l'héritabilité de la dépression est un peu plus élevée que ce que je vous ai indiqué, parce que les analyses sont un tout petit peu plus détaillées. Donc par exemple, on estime que chez des jumeaux de sexe féminin, donc des couples de jumelles, l'héritabilité de la dépression est d'environ 44% quand il s'agit de jumeaux identiques et de 16% quand il s'agit de jumeaux dizygotes. Chez les hommes, cette fraction étant un tout petit peu plus faible. Mais là aussi, en fait, ce qui est important, c'est que on estime l'inné et l'acquis à partir de calculs statistiques assez complexes sur des variations de risque. Et en réalité, dans ces études, il est assez difficile de distinguer la part de ce qui est vraiment de l'héritabilité génétique et de l'environnement. Les dernières études en cours, et il y a sûrement des choses qui vont encore évoluer dans ce domaine et on va avoir de nouvelles connaissances, combinent en fait l'étude de l'héritabilité avec la recherche de gènes spécifiques qui se transmettent donc dans les familles, et notamment entre jumeaux, et qui peuvent expliquer une partie de l'augmentation du risque. Ce qu'on voit à travers ces études, c'est que quand on voit que des jumeaux identiques qui partagent donc 100% de leurs gènes n'ont pas les mêmes risques de développer des maladies psychiques, on va conclure que ces différences entre ces jumeaux sont liées à des choses qui arrivent au cours de leur vie et à des facteurs environnementaux. Dans l'ensemble, ces études nous disent que si les gènes ont un rôle, ils n'opèrent absolument pas seuls et que, de toute façon, leur rôle n'est pas entièrement déterminant. Ce qui veut dire aussi, en termes de santé publique et de prévention, que l'influence de ces marqueurs génétiques et de la transmission au sein des familles peut être contrecarrée. Pour terminer sur cette partie, j'aimerais vous mentionner une dernière étude très récente qui change un tout petit peu la focale sur la transmission familiale qui nous amène à y réfléchir, à regarder les choses un tout petit peu différemment. Alors, il s'agit d'une étude danoise qui s'est appuyée sur des données de registre. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pays scandinaves ont pour particularité d'avoir assigné à chaque citoyen, à chaque résident, un numéro d'identification unique qui est utilisé par multiples administrations. C'est un peu l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale, mais il est utilisé beaucoup plus largement. Il est utilisé lorsqu'on va chez le médecin et qu'on a des soins qui sont ensuite remboursés. Mais il est aussi utilisé pour s'inscrire à l'école, pour s'inscrire à l'université, par les employeurs lorsqu'on est embauché quelque part, par l'administration fiscale. Et donc, dans les pays scandinaves, on peut relier ces différentes bases de données entre elles et avoir des données sur l'ensemble de la population au travers de ces multiples registres et ces multiples sources d'informations. Donc, voilà, on dit parfois que le Danemark ou d'autres pays scandinaves sont un peu le paradis des épidémiologistes parce qu'on a énormément de données sur l'ensemble des populations, ce qui veut dire qu'on n'a pas les biais qui sont associés à la participation aux études. Et puis, les gens peuvent être suivis dans le temps, donc on a des informations très, très riches. Donc, ici, je vous présente une étude qui est basée sur des données de registres danoises recueillies entre 1970 et 2021. Où les chercheurs ont pu rassembler des informations concernant plusieurs personnes d'une même famille. Parce qu'on peut, à partir de ce numéro d'identification, retrouver les parents, les enfants, les cousins, des personnes qui sont incluses. En passant en crible différents troubles psychiatriques, les résultats de cette étude montrent que, oui, avoir un proche qui a des troubles psychiques augmente le risque relatif d'être soi-même touché, mais en deux mots, que dans la plupart des cas, quand on se place à l'échelle de la population, les gens qui ont des troubles psychiques n'avaient pas d'antécédents familiaux de ces troubles. Okay ? Donc là, c'est vraiment une vision très très large, une vision populationnelle, qui nous dit un tout petit peu une chose, enfin qui nous donne un résultat un peu différent des études qui se centrent sur des personnes atteintes de troubles psychiques et qui vont remonter dans leur famille. Donc si on prend ici l'exemple de la dépression, vous voyez que ici, en fait, ce qu'on voit, c'est le risque de dépression au cours de la vie chez des personnes. La légende est ici. Chez des personnes qui n'ont donc pas d'antécédents familiaux de dépression, donc vous voyez que ce risque au cours de la vie est de 7%. En population générale, juste en dessous, il est d'environ 10%, si je ne me trompe pas. C'est 17-18% chez les personnes qui ont des apparentés du premier degré, donc des parents ou des frères et des sœurs qui sont touchés par la dépression. D'environ 15% chez les personnes qui ont des apparentés du second degré, donc des oncles et des tantes ou des demi-frères, des demi-sœurs qui sont touchés par la dépression. Et puis, environ 15% également chez les personnes qui ont des apparentés du troisième degré, donc des cousins qui sont touchés. Donc là, on voit bien ce que je vous ai montré initialement. Le risque relatif, si on compare ici les 7% aux 25%, on retombe bien sur ce que je vous ai montré initialement, c'est-à-dire une augmentation du risque relatif de dépression chez des personnes qui ont un parent touché par la dépression également. Cette étude montre également que environ 50% de l'héritabilité de la dépression est possiblement liée à la transmission familiale. Mais ce qu'elle montre également, et c'est ça qui est intéressant et original, c'est que, à l'inverse, parmi les personnes qui ont à un moment donné une dépression entre 1970 et 2021 au Danemark, 50% n'avaient pas de parents touchés par une dépression auparavant. D'accord ? Donc, ce que les auteurs concluent de cette étude, c'est que, oui, il y a une transmission familiale, mais il n'y a rien de déterminant dans la génétique. Et bien sûr, ce qui se passe dans nos vies en dehors de la génétique, ce qui nous arrive, est une source de risque et de protection importante. Et surtout qu'en termes de santé publique, la prévention doit être pensée à l'échelle des populations et pas peut-être uniquement à l'échelle des groupes à risque. Est-ce que la génétique peut expliquer ce qui se passe dans les familles ? Évidemment non, puisqu'il se passe et il passe énormément d'autres choses que les gènes, et en particulier des éléments qui peuvent aussi avoir des effets sur la santé mentale. Si on, alors là aussi, je voulais commencer par un tout petit pas de côté pour voilà, montrer, par exemple, voilà, ici, bon, évidemment, l'exemple type de la famille, c'est la, peut-être la famille sainte. Et donc, voilà, on voit ici dans ce tableau, par exemple, l'absence d'interaction entre la mère et l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être lié. Les interactions précoces, évidemment, jouent un rôle important. Les soins qu'on apporte aux enfants dès le plus jeune âge. Et puis, la famille, c'est aussi une institution, une organisation sociale. Les sciences sociales nous disent que la fonction des familles, c'est d'engendrer, de protéger, d'éduquer. Et il se transmet bien d'autres choses que les gènes, des ressources matérielles, culturelles, sociales, qui participent à la survie et à la réussite de notre descendance et dont on hérite, en le sachant ou non, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui se transmettent sans que l'on en ait complètement conscience. Du point de vue psychologique, puisqu'il s'agit ici de transmission des questions de santé mentale, la famille est le premier lieu de socialisation où se tissent donc les premiers liens avec la mère, et s'ils sont défaillants pour différentes raisons, mais notamment parce que la mère a des difficultés psychologiques, ils peuvent influencer la manière dont se développe l'enfant et la manière dont il créera ensuite des liens avec d'autres personnes au cours de sa vie. On a parlé des figures d'attachement la semaine dernière. Voilà, ici, ce qu'a représenté Botticelli. Alors, on ne voit pas très bien comment réagit l'enfant, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a sans doute une difficulté d'interaction entre la mère et l'enfant, et il est possible que l'enfant, au bout d'un certain nombre d'appels ou de sollicitations de sa mère, si elle continue de ne pas réagir, se décourage et construisent un attachement qui sera peut-être pas sécure et qui influera sur la manière dont il aura des relations avec d'autres personnes tout au long de la vie. Je suis évidemment pas du tout en train de dire que Jésus avait un attachement insécure, voilà. Enfin, en tout cas, c'est peut-être que c'est ce que nous a suggéré Botticelli, mais là, faudrait demander à un spécialiste d'art de la Renaissance. Bon, quoi qu'il arrive, donc, d'un point de vue psychologique, les relations au sein de la famille, et notamment avec les mères, sont, mais aussi avec les pères, sont très importantes pour définir les profils psychologiques tout au long de la vie. L'accueil reçu au sein de la famille, les relations qui se tissent avec les frères et sœurs aussi, influent sur nos perceptions du monde et la manière dont se structurent nos relations avec d'autres personnes. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus dans un des cours qui suivra. Bien sûr, la famille comporte aussi des risques, notamment des risques de violence. Mais ça aussi, j'aborderai pas ce sujet aujourd'hui, puisqu'il s'agira d'en parler à un autre moment. Et donc, il existe aussi des études qui cherchent à quantifier la manière dont les interactions au sein des familles et puis les ressources qu'on peut se transmettre ou qui peuvent se transmettre des parents aux enfants influent sur le risque de transmission intergénérationnelle des problèmes de santé mentale. Alors pourquoi ? Parce que la maladie mentale influe sur la manière dont les personnes sont à même de s'occuper d'elles-mêmes, leur capacité à travailler, mais aussi les ressources qu'elles peuvent mobiliser pour s'occuper de leurs enfants et la manière dont les enfants sont pris en charge et la manière dont elles sont capables, enfin ce qu'elles arrivent à mobiliser pour protéger et éduquer. Les enfants qui grandissent avec des parents qui ont des troubles psychiques sont soumis à différentes formes de stress et aussi font face à des adultes qui ont moins de ressources pour faire face à toutes ces sources de stress. Et donc ces mécanismes, le stress et les ressources accessibles, matérielles et psychologiques, contribuent également de manière significative à la transmission du risque des parents aux enfants. Donc ici, il s'agit d'une étude menée à Hong Kong auprès d'une centaine d'enfants souffrant de dépression et de leurs parents, et qui montre en fait le rôle prépondérant des ressources financières et de la qualité des relations entre les parents et les enfants dans les difficultés psychologiques des enfants. Une autre partie de l'étude souligne à quel point ce qui s'appelle ici le capital psychologique de la famille, c'est-à-dire la manière dont les familles sont, les parents en particulier, sont capables de faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, de résoudre des problèmes au quotidien interfèrent aussi dans la qualité des relations entre les parents et les enfants, et in fine, ici, influent plus sur le risque de dépression des enfants que les symptômes de dépression des parents en tant que tels. Ou si on veut, l'influence des symptômes de dépression des parents sur le risque des enfants est en grande partie expliquée, en tout cas sur le plan statistique, par les difficultés financières, les difficultés relationnelles et la manière dont la qualité des relations sont impactées entre les parents et les enfants. Il se trouve que voilà, c'est une question sur laquelle moi j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques années avec des collègues basés en Grande-Bretagne qui ont étudié un peu plus de 1000 familles britanniques au long cours. Nous nous sommes intéressés aux effets de la santé mentale des femmes sur le risque de précarité alimentaire au sein de la famille. La précarité alimentaire, c'est une situation où, pour des raisons financières, on ne dispose pas de, on n'est pas en mesure d'acheter et d'organiser des repas équilibrés, variés, etc., pour soi et pour ses enfants. Il faut savoir qu'environ 10% des personnes sont touchées par la précarité alimentaire, qui malheureusement n'a fait que s'aggraver depuis l'épidémie de Covid. Alors on a beaucoup étudié les liens entre la précarité alimentaire comme facteur de stress et la santé mentale des parents, mais ici nous on a pris un peu le contre-pied et on s'est demandé dans quelle mesure est-ce que dans des familles où la mère en particulier avait des problèmes avait des difficultés psychologiques au long cours, le risque de précarité alimentaire était augmenté. Et on a divisé l'échantillon entre personnes à revenus intermédiaires ou élevés, personnes à revenus faibles, et ce qu'on a observé, c'est que les familles où la mère avait des problèmes de dépression au long cours étaient surreprésentées parmi celles qui avaient à la fois des revenus limités et étaient en situation de précarité alimentaire. C'était le cas aussi des familles où les mères avaient des symptômes psychotiques et des familles où les mères avaient des problèmes avec l'alcool ou d'autres types de drogues. Donc ce que ça nous dit, c'est que la santé mentale des parents et des mères notamment est évidemment un facteur de risque de difficultés financières, de difficultés organisationnelle. Voilà, c'est assez évident que la santé mentale induit des problèmes à s'occuper de soi et des autres au quotidien. Alors, est-ce que, si je vous repose la question de ce qui se transmet dans les familles, est-ce que la santé mentale se transmet dans les familles je pense qu'on peut avoir une réponse qui est peut-être un tout petit peu plus nuancée que celle qu'on aurait eue d'emblée. Donc, peut-être oui en partie, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire face à ça ? En fait, si, on peut faire des choses, et un certain nombre de recherches ont montré comment faire pour essayer de limiter, réduire la transmission intergénérationnelle des troubles psychiques. Alors, tout d'abord, soigner les femmes qui ont des troubles psychiques et améliore la santé mentale de leurs enfants. Ici, il s'agit d'une méta-analyse, c'est-à-dire d'une étude qui s'est appuyée sur de nombreuses études et qui a colligé les résultats de ces nombreuses études et qui montre que différentes formes de psychothérapie peuvent être efficaces pour diminuer les symptômes de dépression des femmes, si on reste sur cet exemple, mais aussi améliorer la santé mentale de leurs enfants. D'autres études ont montré que l'accès à d'autres formes de prise en charge, les thérapies familiales, certaines formes de psychoéducation et bien sûr aussi les antidépresseurs, s'ils sont prescrits pour des dépressions plus sévères ou plus durables, peuvent aussi avoir des effets positifs directement sur les enfants. Il y a une étude américaine, par exemple, qui s'appelle l'étude STAR-D, où des femmes atteintes de dépression ont reçu dans un essai randomisé différentes formes de traitements antidépresseurs et la santé mentale de leurs enfants s'est grandement améliorée par la suite et de manière relativement durable. Donc soigner les mères, évidemment, les parents qui ont des troubles psychiques, c'est évidemment une bonne manière de prévenir la transmission des troubles à la génération suivante. Je voulais quand même signaler qu'il y a aussi d'autres types d'approches qui ont été qui ont été évaluées ou qui sont évaluées, beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais aussi en partie en France, notamment tout ce qui relève du soutien à la parentalité. C'est un axe qui a été beaucoup développé dans la stratégie des 1000 premiers jours dont j'ai eu l'occasion de parler, et qui consiste par exemple à proposer des visites à domicile à des familles dont on pense, parce que les parents ont des antécédents de troubles psychiques par exemple, que les interactions avec l'enfant et le risque de santé mentale pour les enfants vont être augmentées au long cours. Il existe aussi, alors ça c'est une approche qui est moins développée en France mais qui existe dans d'autres pays, des programmes de soutien à la parentalité relativement formels qui, surtout dans nos sociétés où les parents se retrouvent parfois tout seuls, n'ont pas de famille ou de proches vers lesquels se tourner et auxquels se référer pour apprendre comment être parent, puisque ça ne s'invente pas et c'est pas forcément toujours d'emblée facile pour tout le monde. Donc il existe des programmes de soutien à la parentalité relativement formels, comme par exemple ici un programme australien qui s'appelle Triple P, programme de parentalité positive, dont les bases sont cognitivo-comportementales et qui a été très très largement évalué, qui montre que donner aux parents des connaissances et des outils pour les aider à faire face à des comportements compliqués de la part de leurs enfants et renforcer leur estime d'eux-mêmes en tant que parents a des effets positifs sur le développement ultérieur des enfants. Je voudrais juste signaler le fait que une des limites de ces études sur le traitement proposé aux parents et les accompagnements à la parentalité, c'est que la plupart d'entre elles se sont centrées sur la période périnatale et on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir si et quel type de prise en charge plus tardive peuvent aussi permettre d'aider les enfants et enrayer le risque de problèmes psychologiques au long cours. Alors, au-delà des programmes qui se destinent directement aux parents, je voudrais aussi signaler des politiques qui sont favorables aux familles et qui peuvent aussi contribuer à améliorer la santé mentale des parents et du coup, peut-être améliorer le devenir des enfants. Il s'agit notamment de tout ce qui relève des congés parentaux. Alors ici, c'est une étude menée par Émilie Courtin, qui est économiste à la London School of Tropical Hygiene, qui s'est basée aussi sur des données danoises, qui a montré que... parce qu'au Danemark, le congé parental est aujourd'hui de presque un an, mais en fait, il n'a pas toujours été aussi long, il y a eu des allongements progressifs. Et elle a utilisé le fait que, en 1984, ce congé est passé de 6 semaines, enfin, a été allongé de 6 semaines, il est passé de 14 à 20 semaines en tout, pour évaluer l'impact de cet allongement sur la santé mentale des parents. Alors, c'est peut-être pas extrêmement... Enfin, voilà, on voit peut-être pas très très bien la différence entre les différentes lignes, mais en gros, ce que vous voyez, c'est que dans les mois et dans les années qui suivent la naissance d'un enfant, les femmes qui ont bénéficié d'un congé parental plus long ont eu moins de risques de dépression que celles qui, à d'autres périodes, avaient connu un congé plus court. Et nous, en France, on a aussi étudié donc ce qui nous dit que voilà, des conditions favorables. Alors évidemment, au Danemark, les congés parentaux sont rémunérés. Donc les familles ont des ressources financières suffisantes pendant les premiers mois de la vie de leur enfant, pendant lesquels ils peuvent se consacrer... à l'éducation et aux soins à cet enfant. En France, on a aussi des politiques familiales relativement généreuses et avec les collègues de la cohorte ELF, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au rôle des congés paternité. J'ai beaucoup parlé des mères, mais on sait aujourd'hui que la santé mentale des pères est aussi un facteur de risque possible des problèmes de développement et de santé mentale des enfants. Et donc, il existe de plus en plus de recherches qui se centrent alors soit à la fois sur les mères et sur les pères, ou sur les pères en particulier. Et nous, ce qui nous a intéressé plus particulièrement, c'est dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir accès à un congé paternité pouvait être protecteur pour la santé mentale des pères. Parce que la santé mentale, enfin, les pères peuvent aussi connaître des symptômes de dépression ou des difficultés psychologiques dans les mois qui suivent la naissance de leur enfant. Et donc, en France, le congé paternité est aujourd'hui d'un mois, mais il était de 15 jours au moment où on a étudié cette situation. Et on s'est aperçu, alors premièrement, que un tiers des pères ne prenaient pas de congé paternité à la naissance de leur enfant, mais que ceux qui le prenaient ou qui avaient l'intention de le prendre avaient, dans les mois qui suivaient la naissance de leur enfant, des risques de dépression réduits par rapport à ceux qui ne le prenaient pas. Vous voyez ici aussi que le fait que le père prenne un congé paternité n'était pas spécialement protecteur pour les mères. Il était peut-être même pas protecteur du tout. Ce qu'on comprend pas tout à fait, et ce qui est peut-être lié au fait que malgré tout, les pères ont plus tendance à prendre un congé paternité quand leur femme rencontre une forme de fragilité ou de difficulté psychologique. Quoi qu'il en soit, puisque depuis 2022, le congé paternité a été allongé à un mois, nous allons bientôt avoir la possibilité d'étudier dans quelle mesure est-ce que cet allongement du congé paternité a des effets positifs sur la santé mentale des pères, mais aussi sur la santé mentale des enfants. Ici, dans la cohorte ELF, qui est une cohorte d'enfants suivie depuis 2011, on a aussi étudié, après cette étude, les liens entre le fait que le père prenne un congé paternité et l'acquisition du langage, le développement psychomoteur des enfants. Et on voit aussi des effets positifs, ce qui nous laisse penser que l'implication des pères et des pères en bonne santé mentale, évidemment, est importante pour l'ensemble de la famille, pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que si je vous repose maintenant la question de est-ce que la santé mentale se transmet dans les familles, j'espère qu'au regard de l'ensemble de ces recherches, la manière dont vous répondrez à cette question est peut-être un petit peu différente, ou en tout cas, j'ai pu vous montrer que la réponse est plus compliquée qu'elle n'en a l'air d'emblée. Si je peux me permettre une réponse personnelle, je dirais oui, c'est bien sûr, il y a une forme de transmission au sein des familles, mais c'est souvent plus complexe qu'on ne le croit. Et quoi qu'il arrive, il n'y a probablement pas de déterminisme. Plus on comprend les effets de la génétique et de tout ce qui passe au niveau biologique, plus on comprend aussi l'importance de l'environnement et tout ce qui peut être fait pour briser le cycle de la transmission des problèmes psychiques au sein des familles. Et pour terminer, je voulais juste mentionner des œuvres littéraires, et là il s'agit d'un film qui est sorti récemment, qui aborde cette question de ce que la santé mentale, dans le cas de Delphine de Vigan, ce sont les troubles bipolaires de sa mère, et dans le cas d'Amos Oz, la dépression de sa mère également, et dans les deux cas, ses mères se sont suicidées, donc leur maladie mentale était très grave et a eu un impact très important sur leurs enfants. Mais il raconte dans ses récits, comme Romane Boringer dans son film « Dites-lui que je l'aime », à quel point peut-être avoir conscience de ces troubles des parents et réussir à les aborder peut être une voie de sortie et une manière de vivre avec et de ne pas être enfermé dans la transmission. Merci beaucoup de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.